Il s'agit d'une action extrêmement bien préparée, baptisée par leurs auteurs Opération Lima, comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Le groupe actif est composé de 5 hommes. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d'idées.
Bonsoir, c'était à la mi-avril, 6 jours de traque pour retrouver Mia, une petite fille de 8 ans. De toute évidence, un enlèvement intrafamilial comme il y en a des dizaines, autour de 500 chaque année en France. Sauf que l'affaire Mia n'a rien d'un rapt ordinaire. Elle va révéler une étonnante organisation calquée sur celle d'un commando militaire, des hommes soudés par un mélange de thèses complotistes, survivalistes, défiant la toute-puissance des autorités, contestant les lois et les obligations, une machine d'État qui ne servirait qu'à broyer et à servir les citoyens. Mia aurait été enlevée et restituée à sa mère au nom tout simplement de la liberté individuelle. Pour la justice, il s'agit tout simplement d'une entreprise criminelle derrière laquelle se dissimulerait une tête pensante, l'organisateur, l'inspirateur de cette opération et peut-être d'autres similaires, un homme vivant à plus de 10 000 km de la France, en Malaisie, un personnage présenté parfois comme un influent gourou, le français Rémi Daillé-Widerman. Ce soir, nous levons le voile sur cette troublante histoire. Ce rapt, pas comme les autres, que cache vraiment l'affaire Mia? D'autres Mia sont-elles programmées? Que cherchent ces ravisseurs de l'ombre? C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons répondre ce soir avec nos invités.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Mia, un enlèvement, celui d'une petite fille particulièrement bien préparée, sans cri ni violence. Ce sont pourtant bel et bien des hommes de main qui se présentent en ce jour de printemps dans un village des Vosges. Ce mardi 13 avril 2021, vers 11h30, un fourgon Volkswagen transporteur de couleur gris anthracite, équipé en minibus, vient s'arrêter devant une jolie maison posée en pleine campagne vosgienne, au numéro 22 de la route de l'Exipré, dans la petite commune des Poulières, 250 habitants à une trentaine de kilomètres d'Épinal. Trois hommes sont à bord. Ils se présentent comme des agents des services de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Il s'agit d'une visite inopinée pour contrôler le domicile dans lequel a été placée la petite Mia Montanaggi, 8 ans, dont la garde a été confiée à sa grand-mère maternelle. Il est prévu que Mia se rende ensuite avec les éducateurs à Épinal pour un simple rendez-vous dans les locaux du Sterno, les services territoriaux éducatifs en milieu ouvert. Des éducateurs qui montrent des papiers officiels et les ordres de mission du ministère de la Justice, tout paraît en règle, même si la grand-mère s'étonne un petit peu de cette visite, elle n'était pas au courant. Pour la rassurer, un des hommes lui propose d'appeler un numéro qui figure sur ses documents. Un responsable pourra lui confirmer le bien fondé de ce déplacement. La grand-mère n'en fait rien. Mia est confiée aux trois agents de la PJJ. La petite fille monte dans le fourgon, une scène qui se déroule sans la moindre violence ni la moindre précipitation. Quelques heures passent et la grand-mère de Mia n'arrive pas à chasser les doutes de son esprit. Elle s'interroge sur cette visite. Elle contacte donc un éducateur qui connaît le dossier. Ce dernier se renseigne et révèle qu'aucune inspection, aucune visite n'était programmée. La gendarmerie est alertée. Dans la soirée, le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Heitz, décide de déclencher le plan alerte enlèvement. Le visage de la petite Mia va alors s'afficher partout. Il est précisé que les ravisseurs seraient de type européen. Deux seraient âgés de 25 à 35 ans, dont l'un porteur d'un tatouage en forme de croix au niveau du cou. Le troisième aurait entre 45 et 50 ans. La piste pédophile est bien sûr prise en compte, mais rapidement abandonnée vu le contexte familial. Mia a été confiée à sa grand-mère maternelle le 11 janvier. Sa mère, Lola Montemaggi, 28 ans, avait perdu la garde de son enfant car elle était jugée instable par les services sociaux. Il l'avait décrite comme une femme souffrant de problèmes préoccupants. Elle s'appliquait à vivre en marge de la société, sans ressources. Elle refusait d'inscrire Mia à l'école en expliquant que l'État n'avait pas à s'immiscer dans ses choix. Elle aurait été violente vis-à-vis du père de l'enfant qui, après 13 ans de vie commune, avait déserté le foyer. Lola Montemaggi aurait enfin des pensées suicidaires. Autant de raisons qui avait poussé les autorités à lui interdire de voir sa fille seule. Les gendarmes se rendent chez elle à Épinal, mais l'appartement qu'elle loue est vide. La mère de Lola, elle aussi, a disparu. Le dispositif alerte enlèvement va être levé dès le lendemain du rapt, le mercredi 14 avril. La demande est alors faite de ne plus diffuser la photo de Mia, même si la petite fille est encore loin d'être retrouvée. Si le procureur d'Épinal a rapidement levé le dispositif alerte enlèvement, c'est en grande partie parce que les enquêteurs disposent d'une piste tout aussi fiable qu'inattendue. La diffusion de l'appel à témoins a rapidement porté ses fruits. Un habitant du coin a noté vers 10h du matin, le jour du rapt, la présence incongrue de deux véhicules à la sortie du village des Poulières. Un minibus Volkswagen, similaire à celui décrit par la grand-mère de Mia aux gendarmes, mais aussi un utilitaire Citroën C15. Ce témoin a été tellement intrigué par ce manège qu'il a relevé les numéros des plaques d'immatriculation. Ceux-ci sont transmis à tous les services de police et de gendarmerie. Le numéro de l'utilitaire Citroën match avec celui d'un véhicule figurant dans une enquête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. La police antiterroriste, rien de moins. Un dossier qui vise en fait un groupe de complotistes suspectés de vouloir s'attaquer pêle-mêle à des centres de vaccination, des officines du Trésor public ou des membres des forces de l'ordre. Un groupe qui envisage aussi d'enlever des enfants pour les soustraire à l'État et au réseau pédophile. Un mot d'ordre inspiré, semble-t-il, de la mouvance complotiste américaine, Canon, très présente sur Internet. Mercredi 14 avril au soir, les policiers interpellent chez lui, dans le 19e arrondissement de Paris, l'homme qui utilise l'utilitaire Citroën, un certain Sylvain P, 58 ans, un pianiste surnommé Pichoun. Il joue d'ordinaire dans un restaurant pour touristes de la place du Tertre à Montmartre. Il n'oppose aucune résistance. Dans son appartement, les enquêteurs saisissent une espèce de mémo qui donne la marche à suivre pour l'enlèvement de Mia, notamment l'attitude à avoir devant la grand-mère et le discours qu'il faut tenir pour que tout se déroule bien. Le pianiste ne fait pas de mystère de son implication dans l'opération, mais ne donne aucun détail sur ce qui pourrait être advenu à la petite fille. Les interpellations se poursuivent, autour dans la soirée de Clément R, 23 ans, surnommé le Corbeau, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et qui vit chez ses parents à Varennes, en Seine-et-Marne. Le lendemain, c'est au tour de Jean-Luc W, alias Jeannot, 60 ans, sans profession, de recevoir la visite des enquêteurs au Lila, en Seine-Saint-Denis. Un quatrième homme, Bruno, 60 ans, responsable d'une société de démolition, est interpellé en Meurthe-et-Moselle. Ils sont connus comme des agitateurs, des hommes qui partagent les idées complotistes, sans avoir jamais eu maille à partir avec la justice. Un enquêteur confie au journal Le Parisien, ils semblent assez fiers de leur acte, mais hostiles à donner le moindre indice sur la fuite de Lola Montemaggi et de sa fille. Les suspects sont transférés à Nancy pour les interrogatoires. C'est désormais la GIRS, juridiction spécialisée, qui est chargée des investigations. Celles-ci ne font que commencer. La petite Mia demeure, elle, introuvable. Devant les enquêteurs, les cinq suspects ne livrent que des détails au compte-gouttes. Il est toutefois établi que la mère de Mia a pris elle-même contact avec l'un d'entre eux, Adrien B, surnommé Bouga. Une connaissance commune lui a conseillé de s'adresser à cet homme de 42 ans, présenté comme quelqu'un qui est avide de justice et d'équité, et qui pourra l'aider à récupérer sa fille. Le dénommé Bouga est touché par l'histoire que lui raconte Lola Montemaggi dans une vidéo. Elle se serait vue dépossédée sans raison de sa fille. Le projet d'enlèvement commence alors à germer. Bouga contacte des amis. On décide de soumettre la mère à un questionnaire en règle. 50 questions pour savoir si elle ne raconte pas n'importe quoi. Il est également demandé à celle-ci un certificat médical attestant qu'elle ne se drogue pas. On lui a fait passer des tests avant de passer à l'action car on voulait voir si elle était dans la capacité de garder son enfant, indique Clément R, dit le Corbeau, aux enquêteurs. Les ravisseurs se réunissent par visioconférence avec l'objectif de rendre l'enfant à sa mère, car disent-ils, il n'y avait pas de solution légale. Ils précisent que la meilleure solution était de placer la maman et l'enfant à l'étranger. L'opération est baptisée Lima, la première lettre est l'initiale du prénom de la mère, les trois suivantes l'anagramme de celui de la petite fille. Trois semaines avant le rapt, Bruno, l'entrepreneur en démolition, et un certain Basile se rendent dans les Vosges pour se livrer à des repérages. Ils empruntent la route de l'Exiprès qui passe devant la maison isolée de la grand-mère. Ils rencontrent également Lola Montemaggi qui demande qu'aucune violence ne soit perpétrée. Pichoun, le pianiste, coordonne l'opération. Il prend la route avec le corbeau deux jours avant le rapt, direction les Vosges. Deux nuits passées à la Belle Étoile et à faire du camping sauvage. L'enlèvement se déroule comme prévu. Tout le monde se retrouve ensuite sur un parking de la commune d'Anou. La mère est là. Elle a vendu la veille tous ses meubles et abandonné son chien sur un parking d'Épinal. Retrouvailles de courte durée entre la mère et sa fille. Le groupe prend tout de suite la direction de la frontière suisse. Frontière qui va être franchie à pied pour éviter les contrôles douaniers. Deux heures de marche. Les ravisseurs se relaient pour porter Mia qui aurait alors beaucoup pleuré. Un complice français vivant en Suisse, surnommé Roméo, attend de l'autre côté. Le canton de Fribourg est la première étape d'un périple qui est appelé à se poursuivre. L'attention des enquêteurs va se porter vers la Suisse, mais il faut désormais aller très vite car les ravisseurs ont pris de l'avance. Ils vont également s'intéresser à un homme dont le nom revient en boucle dans les témoignages des uns et des autres, un captivant maître à penser, un certain Rémi Daillé-Widermann. Rémi Daillé-Widermann, 54 ans, et le nom surgit en filigrane au fil de l'enquête. L'un des ravisseurs, Bouga, serait un proche de cet homme qui se vante, entre autres, de stopper les placements abusifs d'enfants. Cet homme, soupçonné d'avoir inspiré les ravisseurs et peut-être même de les avoir financés, 3000 euros versés depuis un compte en banque étranger, vit à 10 000 km de la France avec une épouse et 11 enfants. Il réside sur l'archipel touristique de Langkawi, en Malaisie. Daillé-Widermann est l'une des figures du mouvement complotiste en France, ancien homme politique qui faisait partie du Modem, formation dont il a été exclu. Il a peu à peu versé dans le complotisme, dénonçant ce qu'il présente comme des abus de pouvoir destinés à briser les citoyens, le port du masque et la vaccination en ce qui concerne le Covid, ou encore la scolarisation obligatoire des enfants, entreprise selon lui de lavage des cerveaux. Il prône l'école à la maison, la déscolarisation. Celui qui est présenté comme un penseur, un guide, un gourou par ses sympathisants ne revendique pas directement l'enlèvement de la petite Mia, mais approuve cette action et en félicite chaleureusement les auteurs. Dans une vidéo mise en ligne, il indique ainsi « Notre organisation libre, résistante, rend des enfants kidnappés par l'État à des parents à leur demande. Il n'y a donc absolument pas d'enlèvement, assure-t-il. Rémi Daillé-Widermann ne se cache pas. Il est en sécurité en Malaisie. Il n'existe aucun accord d'extradition entre ce pays et la France. » Le procureur de Nancy, François Perrin, désigne vite Rémi Daillé-Widermann comme l'animateur principal de la mouvance dans laquelle s'inscrivent les mises en cause. Le magistrat estime que cet expatrié qui multiplie les messages conspirationnistes est impliqué dans le rapt. Il aurait trouvé lui-même un point de chute pour Lola Montemaggi et sa fille en Suisse. Le soir de leur passage de l'autre côté de la frontière, elles ont été prises en charge par le fameux Roméo, sympathisant du réseau Daillé. Après une nuit dans un hôtel du canton de Fribourg, la mère et la fille ont pris la direction de Neuchâtel. Là, elles ont brièvement été hébergées par une femme qui les a dirigées vers un squat autogéré dans une ancienne manufacture de boîtes à musique sur la commune de Sainte-Croix. Les enquêteurs explorent la piste suisse, mais ils arrivent trop tard à l'hôtel où Lola et sa mère ont séjourné. Quatre jours après l'enlèvement, la piste semble se perdre. Le samedi 16 avril, un des gardés à vue évoque l'hébergement de Neuchâtel. Il donne de précieux détails. Le lendemain dimanche, les policiers du canton de Vaud, assistés par deux gendarmes français, se postent discrètement autour du squat. Ils attendent plusieurs heures avant de voir apparaître la mère et l'enfant pour les cueillir en douceur. C'était une course contre la montre, dira le procureur de Nancy. Lola Montemaggi et sa fille ne devaient pas rester très longtemps dans le squat de Sainte-Croix. Il était, semble-t-il, prévu qu'elles prennent effectivement la direction de la Russie. La petite fille est saine et sauve, les auteurs du crime interpellés, mais l'enquête est encore loin d'être terminée. Quelques heures après avoir été retrouvée en Suisse, dans le squat de Sainte-Croix, Mia a été remise à sa grand-mère maternelle qui en avait la garde. Opération conduite hors des regards, loin de la maison des Vosges et du petit village des Poulières. Lola Montemaggi a été, elle, placée en garde à vue par les autorités suisses. 10 jours après le rapt, elle a été extradée vers la France et remise aux enquêteurs français. Quelques heures plus tard, elle était mise en examen à Nancy pour enlèvement de mineurs en bande organisée et soustraction de mineurs par ascendant. La mère, minée par des problèmes financiers et des soucis de santé, avait peu à peu sombré dans le conspirationnisme. Elle s'était rapprochée sur Internet du groupuscule One Nation, qui considère que l'individu prime sur la loi et sur la société qui l'entoure. Le complice suisse, le fameux Roméo, qui attendait de l'autre côté de la frontière à bord de son Porsche Cayenne, a lui été aussi extradé et remis à la justice. Lola Montemaggi et 6 ravisseurs sont sous les verrous. Seul l'un d'eux, Jeannot, est libre, placé sous contrôle judiciaire. Rémi Daye Widerman, le gourou installé en Malaisie, est lui visé par un mandat d'arrêt international pour enlèvement d'une mineure de 15 ans en bande organisée. Les autorités françaises continuent de voir en lui celui qui a tiré les ficelles de cette histoire. Kuala Lumpur a fait savoir qu'elle coopérerait avec Paris, sans indiquer toutefois si Rémi Daye Widerman pouvait être expulsé. Une décision qui ne pourrait se faire qu'avec l'accord du roi de Malaisie en personne.